Bienvenue à votre émission d'art et culture préférée, Café, à CKUT 90.3 FM. Ici Anthony à l'appareil, accompagné de Esther. Ce soir, on vous prépare une petite émission d'été estivale. Esther va nous parler de Fantasia.
Oui, tout à fait. Fantasia bat son plein jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au 3 août. Et puis, je vais vous parler de films que j'ai vus et je vais vous suggérer également des films à voir d'ici là. Donc, ne ratez pas ça. C'est très, très chouette. Et il y a notre collègue Lynn également qui nous a offert un segment à distance. On va écouter ça tout à l'heure.
Et moi, je vais vous parler d'un petit livre que j'ai lu chez mon ami Shuni de Naomi Fontaine. Et je vais vous présenter quelques chansons. Je pourrais peut-être vous en présenter une tout de suite, si ça vous va. Ma petite découverte de la semaine, je vais vous présenter la chanson « Falta » de l'artiste Tim Bernardes. C'est un chanteur, auteur, compositeur, producteur brésilien qui vient de sortir son premier album solo intitulé « Mil Coisas Invisíveis ». Vous comprenez que mon portugais, c'est pas le meilleur en ville. J'arrête pas d'écouter cet album-là. Très conseillé en temps de canicule ou pour votre prochain souper romantique. Donc, on va commencer avec la pièce Falta. Bonne écoute!
Fala.
De retour à l'émission Café, il est 6h05. Vous venez d'entendre la chanson, comme c'est si bien dit, Falta de Tim Bernadez de l'album Mil Cosas Invisibles. C'est sorti le 14 juin 2022. Je vous conseille l'album au grand complet. Ça détend, ça fait du bien. On avancerait tranquillement dans l'émission maintenant avec la première chanson. Je pourrais vous présenter le petit livre que j'ai lu la semaine passée, si ça te va, Esther.
Tout à fait, tout à fait.
Donc, j'étais en vacances de construction. En fait, j'ai aidé un ami à construire sa maison ancestrale. Et là, je suis tombé sur ce livre-là, Shuni. Donc, Shuni, c'est le livre de la romancière Naomi Fontaine, qui vient de la communauté Innu de Ouachat. J'ai trouvé que c'était approprié, surtout cette semaine qu'on a eu la visite du pape au Canada. Il vient tout juste de partir. Il vient tout juste de partir. Ça t'intéresse, Esther?
Oui, je suis ça.
Oui, j'imagine. Donc, Naomi Fontaine vient de Ouachat, c'est une Innu. Elle est aussi enseignante de français au secondaire. Donc, on l'a d'abord connue par l'entremise de ses deux premiers récits. Le premier, c'est Quispan, le livre qui est sorti en 2011, qui fut adapté au cinéma en 2019. Un film quand même bien. Moi, j'ai apprécié. Je ne sais pas si tu l'as vu, Esther. Quispan.
Non.
Dans tous les cas, c'est un bon petit film québécois qui a été adapté du livre de Naomi Fontaine. Ah. Et elle a sorti un autre livre après ça en 2017, Manikanetich. Là, je le dis comme en français, je sais, mon accent est certainement pas bon, mais Manikanetich en 2017, Naomi Fontaine. Donc là, moi, j'ai pas lu ces deux livres-là, j'ai lu Shuni. Elle publie son dernier texte, Shuni, en 2019. Le livre que je l'ai terminé 3 ans plus tard que sa sortie, mais bon, c'est un livre, ça t'offre longtemps. Le livre s'inspire du beau livre « Tout ce qu'on te dira pas, Mongo » de Dany Laferrière. C'est-à-dire, ça se veut un livre un peu conseil pour quiconque arrive dans un nouveau lieu, un nouveau pays, une nouvelle nation. Ici, c'est chez les Innus. Puis pour Dany Laferrière, c'était pour l'immigrant qui arrive au Québec. Donc, c'est vraiment des conseils amicaux. La Shuni du titre du livre, c'est en fait l'ami de la romancière qui, en tant que travailleuse sociale, vient aider son peuple sur la côte nord, dans son village. Donc, elle la voit arriver, puis avant qu'elle arrive, elle lui présente la vie chez elle, au-delà, je dirais, des statistiques et des préjugés. Donc, dans le livre, on voit passer des individus, des émotions, des relations, vraiment plein de petites particularités qui sortent des grandes généralités.
Quel conseil, par exemple, que tu as retenu pour les immigrants qui arrivent ici, qui se lèvent là? As-tu un conseil que tu peux donner, que tu te souviens là?
J'aime ça que tu dises immigrant parce que...
Mais je pensais, c'est ça?
Oui, bien c'est ça, je me sentais comme si j'étais un immigrant qui arrivait chez les Innus. En lisant ça,
ah ouais, tout
même si finalement c'est sur la Côte-Nord, c'est proche de Sept-Îles, c'est au Québec, tu sais, je m'associe à la Côte-Nord, à Sept-Îles, mais en lisant ça, on dirait que ça me replaçait un peu à l'extériorité comme un invité qui était vraiment la bienvenue. Finalement, c'est ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'à la fois, il y a un petit pas de côté, OK, Anthony, francophone québécois, t'es pas nous, on est différents, deux nations différentes, mais en même temps, il y a des bras ouverts à « viens nous voir ». T'es le bienvenu à nous voir. Et c'est précisément là que je m'en allais, que c'est ce qui était beau un peu dans le livre, c'est qu'elle raconte ce qui mine finalement le cœur des colonisés, les Autochtones, les Innus, plus précisément dans son cas, puis que toute l'énergie que ça peut prendre pour recevoir les autres chez soi. Mais après ça, dans le même mouvement, elle va nous dire il y a tellement plein de choses qui peuvent unir les Québécois puis les Autochtones. Parce que, bref, on habite au même endroit puis qu'on a tout à gagner, à s'entendre, à se connaître, à se respecter et ainsi de suite. Donc, en terminant le livre, un livre qui a une écriture vraiment douce et claire, vraiment une belle écriture simple, je l'ai dévoré, c'était facile à lire. Donc, en finissant le livre, je retiens surtout la subtilité des maladresses qui peuvent se produire dans les interactions entre Autochtones et Québécois, puis j'ai goût de dire entre n'importe quelle culture différente. T'sais, souvent, tu le sais pas que tu fais une maladresse, mais t'en fais une. Mais surtout, la nécessité de sortir des statistiques, des préjugés, sortie des préjugés qui passent obligatoirement finalement par l'ouverture, le contact, le partage des cultures, des histoires, puis beaucoup des rires. Les Innus sont connus pour rire, pour être des bons vivants. Mm-hmm. Puis moi, personnellement, quand c'est tendu avec quelqu'un, c'est vrai que le rire, ça détend. Genre l'alcool, le rire, c'est quand même deux bons trucs. Donc, je vous conseille fortement le livre Shuni, qui est de Naomi Fontaine. Vraiment très, très bon. Puis si vous n'avez pas le temps de lire, puis que vous aimez ça, les balados, ben c'est possible d'écouter le livre gratuitement sur le site audio. avis aux gens qui aiment ça passer la balayeuse avec des balados? Que...
ouais, comment on fait le côté sonore?
OK, peut-être pas la balayeuse, mais mettons la vaisselle. OK, on fait de la vaisselle avec... c'était, je pense que c'était une heure d'écoute. Fait que c'est vraiment un petit livre.
Wow.
Donc, je te le conseille, Esther, si ça te tente, Chouni. Puis là, pour faire un petit lien avec les Innus, j'ai découvert l'artiste Canon, une chanteuse. Puis je vais vous présenter la chanson « Tchouken ». Donc, Canon vient de la communauté Innu, mais là, de Manitouanam, pas de Ouachat comme Naomi Fontaine, mais c'est toujours sur la côte nord. Elle nous propose un premier mini-album en 2019, donc ça fait quelques années, en attendant son premier album, selon Internet, qui devrait arriver au cours de la dernière année, Suspense, donc suivons Canon. Donc, c'est un mini-album qui s'appelle Mini-EP, qui est réalisé par la maison Musique Nomade. Donc, je vous présente la chanson Tchouken, c'est ça. Mon accent est vraiment pas bon aujourd'hui, mais Tchouken.
Mon ami, ma chichiwe, au chant choqué. En plus, pas si smart et belle. Ce soir, je vais être honnête. C'est pas eux qui sont mauvaises. Ma chichi, ouais, au charme choqué. Ma chichi, ouais, et quoi n'ai-je pêche, mon ami. Ma chichi, ouais, charme choqué. Je crois.
Fais écouter Lynn.
Oui, donc de retour à Café, il est 6h13. Vous venez d'entendre la chanson Quisken, très courte de Canon. Maintenant, Esther, est-ce que tu as le goût de nous parler de Fantasia? Est-ce que tu as écouté des bons films récemment?
Oui, on va commencer avec les films rétro que j'ai vus. La semaine passée, j'allais voir après Café Action Mutante. C'est un film rétro de Alex de la Iglesia. C'est un film espagnol culte, classique des classiques, 1993. C'est un film à la fois comédie, d'horreur, science-fiction. C'est une projection dans un futur très, très sombre, industriel, très, très violent. Il y a plusieurs planètes. Ben, on nous présente une planète vraiment destroy, trash.
Destroy!
Avec des gens qui s'entretuent facilement. Et c'est une restauration signée Sovereign Film qui sont basés à Los Angeles. Et Sovereign Film, bien, c'est un label qui sort des Blu-ray, DVD et divers autres formats. Ils ont restauré en 4K, imaginez-vous.
Wow.
Donc ce film-là. Et pour un film de ce type de facture industrielle, son, vous savez, granuleuse, un peu sale, ils ont fait un produit qui brille. Donc, il y a un peu un décalage, un peu foufou comme ça. Regardez ce film très trash. post-industriel, avec une facture, avec des noirs qui brillent.
Clair, là.
Ouais. Et tout, des superbes contrastes. Et donc, ça avait lieu au cinéma de Sèvres de Concordia, dans le cadre de Fantasia. Et le système de son est tout à fait un nouvel équipement. Donc, ça sonne vraiment, vraiment, vraiment très bon. Puisque pour jouer du 4K, il faut vraiment aussi un système de son qui
parce que le 4K intègre aussi le son. C'est pas juste l'image qui est améliorée.
Ouais, ça, ben, c'est tout un format, quoi. Okay. Je suis pas une spécialiste des formats, mais il y a... j'ai comme l'impression qu'à toutes les 3 ans, on parle de nouveaux formats et on parlait d'un format au-delà du DCP, donc qui est du HD fou, quoi, où les saturations entre les noirs et les blancs sont très permises et le spectre de couleurs peut aller vraiment très, très, très loin. C'est des immenses fichiers.
Mais là, Esther, est-ce que tu penses qu'on ne fait que gagner à sortir du 4K ou on perd un petit quelque chose, un petit je ne sais quoi?
Moi aussi, je réfléchis beaucoup à ce... Mais pourquoi se casser la tête entre le 2K et le 4K? Mais pourquoi? Je me pose encore la question. Et je ne suis pas une puriste d'avoir la parfaite image, mais... D'un côté, avec une certaine distance, j'aime bien voir qu'est-ce qui se passe en technologie. Mm-hmm. Et puis, lorsqu'on me parle de ces méga gros fichiers, je me dis, OK, bon, on n'est plus au DCP. Et le DCP, c'est un peu comme le truc de festival, les formats de festival depuis quelques années. Et c'est toujours très amusant amusant dans un sens... théorique là et de distance là quand on le vit, je pense que c'est pas chouette de réaliser que les DCP quand c'est sorti les DCP dans les festivals et tous les festivals ont un peu eu des ratés qu'on parle ici à Montréal de certains festivals
des ratés techniques là.
Ratés techniques puisque les DCP ont une clé de sécurité, donc un code pour permettre d'avoir un accès à une fenêtre limitée pour pas qu'il y ait de piratage et tout. Donc, lorsqu'il y a un décalage horaire, comme les films coréens, trucs comme ça, ça arrive quelques fois que les distributeurs se trompaient dans leur calcul de time zone. Donc, c'est arrivé à Fantasia, c'est arrivé au Festival du Nouveau Cinéma, c'est arrivé au festival, au grand festival à New York également. Il y a des articles en ligne de Brian De Palma qui avait sorti en primeur mondiale son film et il y a eu un raté de DCP. C'est dans les histoires. Mais bon, on ne va pas parler de format.
On peut revenir à Action de Mutante.
Oh, c'est vraiment
c'est
un
quoi
film.
L'histoire? Raconte-nous donc un peu, mets-nous l'eau à la bouche.
Donc, dans... c'est en Espagne, dans le futur. Il y a un riche industriel qui fait les manchettes, qui voit sa fille se marier. Et pendant le mariage, il y a cette gang de terroristes qui s'appelait Action Mutante. Et ces terroristes vont kidnapper la fille pour une rançon, pour l'argent, quoi. Et puis, c'est toute cette aventure folle, puisque c'est... Ce groupe d'Action Mutante, ils sont tous des mecs qui leur manque quelque chose dans la tête, qui sont tous désorganisés, tous...
Ici, ils disent « exclus les... » Ben, c'est des handicapés exclus physiquement disgracieux. C'est ce que Wikipédia dit, disgracieux.
Ah ouais. Wow, disgracieux. Voyons, ils sont pas gracieux, élégants. Soit ils sont un peu fous dans la tête... Ou intellectuellement ou physiquement. Il y en a un qui a comme des sortes de prothèses en métal. Ah oui, il y a des frères siamois aussi.
Oh, ils sont pognés ensemble, les pauvres.
Donc, cette gang de joyeux foufou kidnappe cette jeune femme. Et puis, donc, c'est toute cette aventure. Il y a une scène incroyable où un des frères siamois tombe amoureux de la fille. Et puis, la fille, pendant toute la première trois quarts du film, quand elle est kidnappée, elle est attachée, puis elle ne peut pas parler puisqu'elle a des broches sur la bouche. Et puis le mec qui tombe amoureux dit « Ah, tu sais, t'as mal choisi ton futur époux, t'aurais dû... Il n'en vaut pas la peine, vraiment, c'est bien fait pour toi, dans le sens que qu'on t'a libéré de ce mec-là.
Oh. »
Donc, c'est... Et puis elle... donc, elle, la jeune femme, bien, elle tombe amoureuse du chef du groupe. Mais lui, il n'en a rien à cirer, quoi. Il veut rien savoir. Il dit, hey, non, c'est moi le bourreau. Fais ce que je...
Syndrome de Stockholm, hein? C'est pas le même, ça s'appelle?
Ouais, c'est ça, hein? Il dit, fais ce que je veux, là. Non. Et puis, bon, fil en aiguille, ils sont sur une autre planète. Et puis, ils sont un peu perdus. Ils essaient d'obtenir de l'aide, et puis ça ne fonctionne pas. Et puis, c'est un peu comme un Far West du futur, parce que les gens ont des armes très facilement et s'entretuent. Donc, en ce moment, bien, c'est vrai, un film devrait sortir en Blu-ray ou en vidéo sur demande. Ce film restauré, Action Mutante 1993, c'est vrai, un petit chef-d'œuvre.
Avant de peut-être présenter la capsule de Lynn, j'avais le goût de présenter une chanson.
D'accord.
Ça devait être
encore en portugais?
Non, là, on va y aller plus purement musical.
OK.
Juste des instruments à cordes. Donc, je vais vous présenter la chanson « La mer 1 de l'aube à midi sur la mer ». Donc, c'est une pièce de Debussy. C'était le collectif 9, un groupe montréalais composé de 9 instruments à cordes. J'ai découvert ça tantôt, là, en fouillant. Donc, ils ont sorti l'album « Vagues et ombres » le 27 mai 2022. Donc, c'est encore tout chaud.
Est-ce que tu as quelques musiciens à nous présenter dans ce collectif?
Je suis pris au piège par ta question. Après la chanson, je vais les présenter. Ça vaut la peine.
D'accord.
Parce que peut-être que tu les connais, si je comprends bien. Donc, c'est un album dans lequel le groupe propose leur interprétation de quelques pièces gravitant autour du thème de la mer.
De Debussy.
De Debussy, oui. Donc là, je vais présenter
c'est
la
très
chanson.
Comme thème, là.
Oui, exactement.
Ouais.
Donc, allons-y
bonne
en
écoute.
Chanson.
This summer, I'm going to avoid spreading COVID-19. It's easy. This summer, I'm going to avoid spreading COVID-19. It's easy. I'll wear a mask in crowded places. If I have symptoms, I'll self-isolate and do a rapid test. If I test positive, I'll stay home for at least 5 days. And for the next 5 days, I won't visit anyone who's at risk. I'll avoid social events like festivals and gatherings. And I'll limit my activities to only the most essential, all while wearing a mask and staying 2 meters away from others. The virus is still out there, so we have to be careful. A message from the gouvernement du Québec.
Cinema Politica is thrilled to announce the theatrical release of Dear Jackie, a feature documentary by Henri Pardo. The film opens on June 17 in 4 theaters in Montreal: Cinéma Public, Cinéma du Musée, Cinémathèque Québécoise, and Cinéma Moderne, with the director and special guests in attendance at select screenings. Dear Jackie poetically tells the story of one of the oldest black communities in Canada, Montreal's Little Burgundy, by way of a cinematic letter to Jackie Robinson, the first black man to break the color barrier in professional baseball. It also masterfully connects history to the present by challenging the myth of a post-racial society. This release is co-presented by Desta Black Youth Network, Tyndale St. George's Community Center, Canteen Bergs, and Makisia Solo. For more information and tickets, visit cinemapolitica.org. We hope to see you there. This is a CKUT co-presentation.
Bonjour tout le monde, c'est Lynn qui vous parle à l'antenne de CKUT au 90.3 FM à l'émission Café. Je vous parle toujours de Rimouski, où je passe l'été avec Paraleuil. C'est un organisme de diffusion et de production cinématographique basé au Bas-Saint-Laurent, à Rimouski précisément. Puis on fait des projections en plein air dans tout le bas du fleuve pendant l'été. Donc je dois malheureusement enregistrer mes capsules à l'avance à cause de mon horaire chargé qui ne me permet pas d'être là en live les vendredis soirs. Mais je suis quand même là en diffusion et à distance. Fait qu'aujourd'hui, je vous parle d'un documentaire qu'on a projeté à Saint-Anaclet, c'est à 20 minutes de Rimouski environ, le 11 juillet dernier, je crois bien, qui s'appelle L'acte de la beauté, qui a été réalisé par Nicolas Paquet et qui est sorti en 2021. Donc je vous passe la bande-annonce à l'instant.
On est dans un moment historique. La catastrophe climatique qui nous pend au bout du nez nous civilisera. C'est mon espérance. C'est pour ça que nous avons fondé Sage Terre. C'est vraiment comme ça que la notaire le présente. La propriété appartient très précisément à personne.
Devant le grand jardin triomphant que je vois, un sentiment se forme de lui-même. C'est beau à pleurer. Moi et mes légumes, nous irons ensemble, je ne sais où, mais pas dans le hasard et le néant. Si j'ai foi en quelque chose, en voici l'acte. La bêche en terre, nous finirons tous par embarquer dans la beauté.
Fait que, dans le fond, le documentaire L'acte de la beauté met en scène la ferme collective Sage-Terre, qui est située au cœur des monts du Bic, dans le bas du fleuve. Et il met en scène aussi ses résidents. C'est des esprits créatifs qui essaient d'innover dans cette période d'instabilité climatique. Sage-Terre, en fait, c'est une fiducie d'utilité sociale agricole, ou FUSA, c'est-à-dire que les terres sont un bien commun qui ne correspond pas au concept de propriété privée. Donc, comme c'est un peu évoqué dans la bande-annonce, comment la notaire présente ça, c'est que c'est vraiment un système complètement anticapitaliste. Personne ne peut dire « ça, c'est à moi, la ferme est à moi, les revenus me reviennent ». C'est vraiment là pour le bien commun, pour faire avancer la cause, et tout le monde travaille pour tout le monde, t'sais. La figure principale du film et aussi de la structure de la ferme, c'est Jean Bédard. C'est un écrivain et philosophe devenu paysan par la force des choses quand il a réalisé que c'était pas mal la seule manière qu'il voyait d'avoir vraiment un impact sur les changements climatiques, sur l'urgence climatique, et dont il se sentait vraiment utile. Le documentaire est bercé par des extraits d'un des nombreux livres que Jean Bédard a écrit et qui s'appelle « Journal d'un réfugié de campagne ». C'est des écrits qui poussent vraiment à la réflexion sur la beauté de la nature et sur la nécessité de se mettre en action collectivement pour faire face à l'urgence climatique. C'est vraiment quelque chose sur lequel ils appuient énormément pendant le film, la nécessité d'être une collectivité et non pas une individualité pour faire un changement qui est vraiment, vraiment essentiel pour avoir un vrai impact. Fait que si je vous parle un peu de mon ressenti par rapport au documentaire, ce que j'en ai vraiment retenu, c'est justement l'importance de l'esprit de communauté et de partage. C'est vraiment deux valeurs qui sont extrêmement présentes dans la mentalité des habitants de Sacheterre et du concept de Sacheterre en général. Personnellement, il y a une scène qui m'a particulièrement marquée, où Jean Bédard, sa femme et des résidents de la ferme se retrouvent pour partager les raisons qui les ont amenés à intégrer la structure agricole de Sacheterre. Et en fait, la plupart d'entre eux n'avaient pas ou peu d'expérience agricole avant d'arriver là, mais ils ont tous appris sur le tas, en commençant simplement par avoir le bon état d'esprit et une motivation hors du commun. Et le reste a suivi parce qu'ils avaient les bonnes motivations, les bonnes raisons d'être là. Fait que ce que j'en retiens également, c'est le sentiment de paix et de douceur qui est transmis par le film au complet. La manière que c'est filmé, les plans, les sons de la ferme, des animaux, c'est aussi filmé à travers les saisons. Fait que tu ressors de là vraiment avec un sentiment de paix, tu te sens groundé, fait que tu te sens inspiré aussi. Là, je trouve que il y a beaucoup de films qui parlent de l'urgence climatique qui sont très alarmants. Puis des fois, c'est ça qu'il faut, tu sais, c'est ça qui s'apprend pour que le monde se réveille puis fasse des actions. Mais personnellement, en étant déjà alarmée, ça a fait du bien de voir quelque chose qui était plus dans l'espoir puis dans l'inspiration de qu'est-ce qu'on peut faire, genre nous, à petite échelle pour avoir un impact. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle fin de soirée et à la semaine prochaine.
Rebonsoir et bienvenue sur Café, votre émission d'art et culture. Il est 6h33. Vous venez d'entendre Lynn, notre collègue. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui nous entretenait sur un documentaire qu'elle a vu, le documentaire L'acte de la beauté de Nicolas Paquet. Lynn, qui est, comment dire, notre correspondante, qui est en ce moment à Rimouski pour l'été, mais qui va revenir à Montréal et venir en studio d'ici quelques mois, j'ai l'impression.
En août, mais ça en août.
Au mois d'août, voilà.
On a hâte de la voir.
Ouais, on a hâte de la voir. Et ouais, moi, au mois d'août, bien, je risque d'être aussi dans l'Est du Québec.
Vous changez.
Donc, on va permuter. Pour poursuivre ma couverture de Fantasia, bien, j'étais voir Il Demonio, un film rétro, 1963. Un film italien d'horreur. En France, on dit « Le démon dans la chair ». Je viens de découvrir...
C'est un beau titre, « Le démon dans la chair ».
Ouais, je viens de découvrir la version française. C'est un film qui est sorti en 63, mais qui est sorti en France en 67. Donc, il y a eu un petit délai. Le réalisateur, c'est Brunello Rondi. Il a déjà travaillé avec Fellini. Et Il Demonio, bien, c'est vraiment The Demon en anglais. Ouais, il y a beaucoup de titres. C'est un film assez incroyable, avec un design sonore très, très, très calme, très feutré, mais dans ce son qui est presque qu'un silence, il y a beaucoup, beaucoup d'intensité. Lorsqu'il y a de la musique, on a joué la musique, c'était la semaine dernière, sur Café. La trame sonore me faisait un peu penser parfois à Xenakis lorsqu'il y a des envolées de cordes et très, il y a beaucoup de textures, ça grince et parfois c'est très très fort et ça occupe tout l'espace narratif. Et c'est très réussi comme trame sonore. Mais le film est en question, c'est vraiment autour d'une femme qui devient obsessive, qui a un mal d'être, tombée amoureuse d'un mec qui finalement s'est marié avec quelqu'un, donc c'est un peu une sorte...
Elle devient folle par amour un peu, là.
Ouais, bien, c'est la prémisse. On peut lire plusieurs prémisses, mais il y a différentes profondeurs à lire sa folie. On peut accorder sa folie en tant que fille non traditionnelle qui a sa propre personnalité, qui ne veut pas suivre les traditions familiales. Tandis que le mec pour lequel elle était tombée amoureuse, bien, il est tombé à suivre la tradition familiale, c'est ses parents. Bon, c'est les années 60 hein, en Italie. Donc, catholique, c'est le sud de l'Italie en plus, petit village, donc c'est assez traditionnel. Donc, les parents avaient bien organisé son mariage avec une femme qui est prête à avoir des enfants et tout le truc. Tandis que l'héroïne principale, elle tombe dans une sorte de délire. Donc, soit qu'on accorde ça à une certaine folie, qu'elle est possédée par le démon.
Comme le titre le dit.
C'est ça, sa communauté, son village le voit comme ça. Et puis, on la traite de sorcière et tout le truc. Elle passe à être brûlée, elle passe presque à deux doigts d'être brûlée, quoi. Sa famille essaie de la supporter, essaie de la cacher, mais les villageois... Ils lui en veulent et tout. Donc, ils finissent par la cacher dans la cave. Et puis, ils la découvrent et blablabla. Bla, bla. Et puis, la fin est assez tragique. On dirait une tragédie grecque, quoi. Mais il y a une scène dans une église où le prêtre essaie d'exorciser la fille. Et puis, bon, ça ne fonctionne pas. Et là, la musique est très, très intense, très forte. Et c'est là, je trouve que ça fait penser à du Xenakis. Mm-hmm. C'est très, très dense, l'espace sonore. Donc voilà, c'était Il Demonio. Et c'était une autre version restaurée, assez incroyable, présentée à la Cinémathèque. Donc c'est à suivre. Ensuite, il y a un film coréen que j'étais voir qui s'appelle On the Line, réalisé par Kim Gok. Et c'est un film, pour un film coréen, qui est assez court. Souvent, c'est des grandes fresques, les films coréens, qui durent assez longtemps.
Donc, On the Line 2021. Donc, ça vient de sortir, là.
2021, ouais. C'est ça. Et donc, c'est un film avec beaucoup de suspense. C'est un film d'action, un film assez incroyable, qui donne un peu un point de vue critique sur les réalités sociales, économiques. Mm-hmm. Mais c'est un film... Bon, j'écoute pas les télévisions, les séries télévisées, mais quand on me parle de télévision coréenne, j'ai l'impression que ça fait un peu écho à ce type de trailer qui nous en donne... Comment dire? Qui nous en donne beaucoup de trailers. Qui nous donne beaucoup de suspense et beaucoup
de stress.
De stress,
on est emporté,
qu'on a envie de voir, wow, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va
T'es
se passer.
T'es pris au piège, il faut écouter.
Ouais, c'est vraiment... C'est un rythme assez rapide, plus rapide que les films coréens que je vois depuis plusieurs années. Et tout commence avec un appel téléphonique. Et donc, les Coréens sont assez avancés en technologie là-bas, mm-hmm. Les grosses compagnies, LG, blablabla, bla, téléphone, hein?
Samsung.
C'est ça, ils sont coréens. Et puis, c'est un peu une critique de cette société qui est... Et tout commence avec des gens qui volent des scams. Je ne sais pas comment on dit en français.
Ils volent quoi, les scams?
Donc, c'est un appel téléphonique. un appel téléphonique qui demande vos informations personnelles.
Oui, j'aurais besoin de votre carte Visa parce que je suis, je sais pas quoi.
Ouais, c'est ça. Oui, donc,
ça arrive souvent pour les personnes âgées en ce moment là à Montréal. Il y a plein de gens qui se font avoir.
Ah oui, c'est ça. Ah là là. Donc ça, c'est avec beaucoup beaucoup de ruses et avec le crime organisé. Et, donc on vous déballe ça dans ce film là et c'est assez incroyable. Lorsqu'on croit que c'est une petite compagnie qui organise ce crime-là. Non, Lanterne est en Chine, un méga
organisation méga multinationale.
Voilà, avec une hiérarchie incroyable et avec beaucoup de tensions. Donc, qui va avoir le meilleur script? Donc, par exemple, cette semaine, tous ces travailleurs-là travaillent sur un script X pour aller dénicher de l'argent. Donc, ils font croire aux gens au bout du fil que, bon, ils ont reçu une bourse d'études et il leur faut un tuteur. Et ce tuteur-là, il faut qu'il sorte l'argent. Et c'est des gros montants d'argent.
Et c'est
complètement délirant, ce film. Et évidemment, les employés reçoivent des bonus qui...
Mais à t'entendre, ça a l'air un peu... intense comme situation, mais juste avant, tu as dit que tu embarquais dans le suspense, tu y croyais, c'était cohérent.
Oui, tout à fait. Oui, il y a une très bonne logique dans ce propre film-là. C'est loufoque, quoi. oh my God. Donc, la mise en scène, elle est superbe, très bien ficelée. Un autre film coréen, et là, celui-là, c'est Aller voir.
Ça joue le 30. Il est pas encore présenté, OK.
C'est ça. Ça, c'est le 30 juin, un autre film coréen.
Donc, dimanche.
Heaven to the Land of Happiness. C'est un film 2021, également 100 minutes. Donc, un autre assez court, finalement. Et le réalisateur Kim Sam-soo, c'est lui qui a réalisé et scénarisé The Housemaid. Ça cartonnait dans les festivals, ce film-là. Et c'est une sélection officielle du Festival de Cannes, film de Busan, d'Hawaï, Hong Kong, le pop cinéma asiatique, du London Korean Film Festival. Donc, c'est un film qui a bougé beaucoup. C'est un film d'aventure. Et puis, c'est un drame-comédie. Donc, ça, c'est une suggestion de cette fin de semaine.
À quel endroit qu'on peut l'écouter?
Ah oui, celui-là, c'est au Théâtre de Concordia, le Théâtre Hall, qu'on appelle l'Auditorium des Diplômés. C'est au 1400 de Maisonneuve-Ouest.
Donc, le 30 juillet à 17h, voilà. Heaven to the Land of Happiness.
Voilà, un film coréen que je vous suggère. Beaucoup de suspense, film d'aventure. Et dernière petite... je veux souligner que dernier film de Quentin Dupieux, c'est un réalisateur français établi aux États-Unis qui monte sans cesse. Là. Il est vraiment aimé à Montréal et puis il nous propose Incredible But True. Donc, c'est un suspense, c'est une primeur nord-américaine. C'est un suspense entre un couple qui ont acheté une maison en banlieue et qui entendent une mystérieuse présence dans le sous-sol. Et ça joue le dimanche, le 31, à 9h30, le soir, toujours au Théâtre de Concordia du Grand Hall.
Et ça, c'est tout nouveau, là. C'est sorti en 2022.
Ouais, tout à fait. C'est la première nord-américaine.
Rien de moins.
Ouais, puisque ce réalisateur-là, Quentin Dupieux, depuis quelques années, il sort un film à toutes les 2 ans environ. Il est très productif.
Ça me rappelle que je fais pas grand-chose, moi.
Et il sort souvent ses films au Festival du Nouveau Cinéma. Donc là, je présume qu'il y a eu sûrement dans l'échiquier là, des discussions. Et puis là... c'est Fantasia qu'il a eu. Mais bon, tous ces films, hein, ils peuvent sortir entre les deux, puisque ce réalisateur-là joue entre les films de tension, un peu marginaux, mais c'est pas des films d'horreur, mais il y a beaucoup de tension psychologique. Donc, ça peut être soit Fantasia ou le Festival du Nouveau Cinéma, ça cadre. Donc, c'est des potes entre les deux festivals. Donc, tout va bien.
Peux-tu nous répéter le titre?
En français, Incredible but true. J'ai le...
Incroyable mais vrai en français.
Ouais, c'est ça. J'ai le communiqué de presse version anglaise devant moi du Festival du Nouveau Cinéma. De Fantasia.
Oh, c'est un beau lapsus.
Désolée. Mais, ah oui, c'est ça. Je l'ai ici. Incroyable mais vrai. Voilà, c'est ça. Il y a aussi le nouveau Dario Argento, comme je soulignais la semaine passée, Dark Glasses. Il retourne à la tradition giallo. C'est une travailleuse de sexe aveugle. Elle est traquée par un psychopathe dans le premier long métrage de Dario Argento depuis une décennie. Donc, il retourne à ses histoires de psychopathe. Mm-hmm. Et pour définir le giallo bien, le giallo a ses règles très précises. Et c'est un psychopathe ou un tueur qui se cache le visage et qui a souvent, il tue les gens avec un couteau la plupart du temps. Donc, ça fait partie de... Je ne suis pas une experte. Hein?
C'est un style de film de genre.
Ouais, c'est ça. Okay. C'est un film... C'est toujours des histoires de psychopathes, de tueurs en série, mais qui se cachent... On ne voit pas son visage.
Mm-hmm.
Et puis que son arme, c'est souvent un couteau, rasoir.
Arme blanche.
Ouais, c'est ça. Et souvent, les victimes, c'est des femmes. Mais là,
j'imagine les femmes crient.
Ouais, mais je veux pas dire que c'est formellement des femmes qui tuent la plupart du temps, parce que je suis pas une spécialiste de giallo. Mais c'est super italien comme genre. Et puis Dario Argento, ben, c'est un des maîtres du giallo. Donc, on va passer en musique, n'est-ce pas?
Oui, oui. Qu'est-ce qu'on écoute?
Donc, on va écouter le dernier CD de Teke Teke, ce groupe montréalais qui a sorti sur Kill Rock Star, super label, pop électronique, rock, indie rock. Je suis vraiment contente pour eux. Ils ont sorti ça en 2021, ouais, c'est ça. On va écouter la pièce qui s'intitule « Barbara ».
Bye.
Vous venez d'entendre la chanson Barbara de Teke Teke. Ils ont sorti un album en mai 2021, Shirushi. Ils viennent de Montréal.
Ouais, ils sont super chouettes.
On les aime beaucoup. On les aime beaucoup. Il ne nous reste pas beaucoup de temps à l'émission. Ce soir, j'ai le goût de vous inviter officiellement au spectacle du groupe montréalais Wouf Wouf. C'est bien Wouf Wouf, comme le bruit des chiens.
En français.
Oui.
Parce qu'en anglais,
c'est un autre...
C'est une autre façon en anglais.
Oui, vous pouvez vous imaginer, c'est un Ben Rock très sérieux, mais aussi ironique. Il joue sur cette ligne fine-là de l'absurdité, mais avec un travail sérieux derrière la musique.
Donc, c'est où? C'est où?
Ça se passe au Quai des Brumes. Au Quai des Brumes ce soir à 9h30, et j'ai appris entre les lignes qu'il allait sortir le piano droit. Et donc, ils sont obligés de jouer au ras du sol parce que le piano est au sol et pas sur la scène.
OK, il est un peu caché, le piano. Il n'est pas sorti toujours. Hein?
C'est ça, exact. Et ils présentent aussi leur un vidéoclip. Je pense que c'est le clip « Lâche ta job ». J'adore les titres. Je vais vous mettre mon coup de cœur. Je pense qu'elle devrait passer à chaque jour dans toutes les radios. On va écouter la chanson « Dangereuse vie » parce que oui, notre vie est dangereuse. Vous ne trouvez pas, vous? Et c'était la chanson « Dangereuse vie ». On sait que votre vie est dangereuse. Donc, c'est comme ça qu'on va se terminer. Bien, on va se laisser avec une chanson de jazz de Christine Jensen Quartet qui, ce soir, passe
au... Au Diaz 11.
Exactement.
C'est un classique du Diaz 11, Quartet.
Ah oui, tu les connais?
Bien, je connais leur nom, mais je ne suis pas certaine que... Là, je regarde leur nom. Christine Jensen, elle joue du saxophone. Il y a Steve Amiro au piano. Fraser, quelque chose... je vois plus les génériques. Ah. Mais, ouais, c'est des... Ils jouent régulièrement au Diaz 11. Et puis, allez voir ça si vous aimez le jazz.
Ils sont là ce soir au Diaz 11. Donc, vous avez le choix entre Wouf Wouf au Quai des Brumes ce soir à 9h30 ou le Christine Jensen Quartet aussi, je pense que c'est...
Ou à... vous pouvez aller à Fantasia ce soir.
Plusieurs choix.
OK, laissez-moi 3 secondes, là. à 19h25, il y a Whether the Weather is Fine. C'est un film philippino. Donc, si vous aimez les films philippino qui abordent le folklore traditionnel, mais avec une sauce actuelle, avec beaucoup de suspense, allez voir ça. Donc, à Fantasia.
Sur ce, vous avez plusieurs choix.
Plusieurs choix.
Appelez-nous si vous ne réussissez pas à décider. On va essayer de vous aider.
Tirer à pile ou face.
Oui,
ou...
le rush papier ciseau.
Ouais, c'est ça. Tourner le dé.
Donc, c'était Café.
Café.
On se revoit vendredi
Les
prochain.
6h56 et à vendredi prochain. Bye Bonne bye. Fin de semaine. Au revoir.
If I have symptoms, I'll self-isolate and do a rapid test. If I test positive, I'll stay home for at least 5 days. And for the next 5 days, I won't visit anyone who's at risk. I'll avoid social events like festivals and gatherings. And I'll limit my activities to only the most essential, all while wearing a mask and staying 2 meters away from others. The virus is still out there, so we have to be careful. A message from the gouvernement du Québec.
Hola. Hola amigos, bienvenidos a nuestra emisión quincenal, escuchando América Latina, aquí en CKUT 90.3 FM.
Les informaremos a ustedes sobre el arte, la cultura, poesía y turismo.
También tenemos deportes, información actual y mucho más.
América Latina, ¿eres tú?
América Latina es ella.
América Latina es él.
América Latina, somos nosotros. América.
Argentina.
Bolivia.
Brasil.
Chile.
Costa Rica.
Colombia.
Cuba.
Ecuador.
El Salvador.
Guatemala.
Honduras,
México,
Nicaragua,
Panamá,
Paraguay,
Perú,
República Dominicana,
Uruguay,
Venezuela,